Aujourd'hui à l'émission Un temps pour parler, l'abbé Denis Veilleux reçoit le père Nathanaël Garrick de la communauté de l'Emmanuel, pasteur auprès des lycéens. Ce second de deux entretiens s'intitule « Perdre ou gagner ».
Nous allons ouvrir un livre, qui s'appelle « Vivre, pourquoi, pour qui » aux éditions Salvator, que vous avez écrit. Père Nathanaël Garrick, nous revenons à votre livre. Le mur, un grand mur, des idéologies et ses fissures mondiales actuelles. Vous pouvez nous en parler?
On est dans une période passionnante à bien des égards. Et je trouve que une des choses passionnantes dans notre époque, je dirais, c'est la multiplication des idéologies. Alors, j'emploie le mot ici de manière neutre, pas au sens négatif, mais au sens d'une idée qui fait un système et qui va passionner des gens. On a vécu, je pense, pour une bonne part dans le XXe siècle avec deux, trois grandes idéologies, on va dire le communisme, le libéralisme, on pourrait en rajouter une ou deux, mais c'était d'abord des idéologies politiques. Et puis aujourd'hui, on est dans une époque d'une démultiplication des idéologies, convergentes pour une large part, mais pas que. En tout cas, si vous prenez, aujourd'hui, on parlera facilement du féminisme, du postcolonialisme, de l'antispécisme, le wokisme, tout ce qu'on veut. Donc je trouve que c'est très intéressant d'être dans une époque où on n'est plus, qui est plus une époque binaire, en fait. Et qui est une époque multipolaire dans laquelle les gens, en fait, vont se retrouver, s'investir dans des idéologies. Et ce qui est intéressant, c'est que ces idéologies qui reposent pour une large part tout de même sur des dénominateurs communs, en fait, parfois peuvent rentrer en conflit les unes avec les autres. Et donc, moi, parfois chrétien, j'ai un peu l'impression d'être au spectacle, si je puis dire, d'idéologies qui vont s'entre-déchirer entre elles. Je trouve ça passionnant parce que ça met justement, vous voyez, on a commencé quasiment sur la question de la cohérence. Quelle cohérence on est capable de donner dans notre vie. Or, rentrer dans une idéologie, c'est choisir d'avoir une vie cohérente, c'est choisir une forme de cohérence. Or, quand on est dans l'idéologie, le réel, le réel est dur parce que le réel met à mal notre idéologie. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est une expérience tout à fait passionnante. Enfin, je trouve que c'est un côté tout à fait passionnant.
C'est le reflet de ce que les jeunes vous ont montré, d'une certaine manière, toutes ces idéologies qui apparaissent.
C'est à la fois le reflet de ce que j'ai entendu chez les lycéens, chez les étudiants beaucoup, et puis c'est aussi le reflet de ce que je lis dans mes médias français aussi en ce moment, oui.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écrit le mot « mur » en majuscule. Est-ce que dans votre livre, les idéologies, elles ont... Parce que là, vous en parlez de manière extrêmement positive. Mais est-ce que dans votre livre, vous en parlez aussi de manière plus négative?
C'est comme la passion, il y a un double regard qu'on peut porter dessus. C'est qu'à la fois, moi, je trouve que, oui, par exemple, il n'y a pas longtemps, des étudiants français ont terminé leurs études à l'école de l'AgroParisTech à Paris. Donc c'est une école où on forme les ingénieurs agronomes, donc ceux qui vont cultiver des plantes pour nous nourrir. Et en fait, au moment de la remise de diplôme, ils disent non merci. Vous nous avez appris à enrichir les actionnaires des grandes multinationales de l'agroalimentaire et à saccager la biodiversité pour ça. Or nous, c'est pas ça le choix de vie qu'on veut. Donc tous vos trucs, non merci. Et puis après, ils font la liste des sociétés, des associations dans lesquelles ils vont s'engager. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle, pour moi, ce que je trouve la dimension positive de l'idéologie, c'est-à-dire une idée à laquelle je vais essayer de me conformer parce que je la trouve belle. Et moi, ce qui marque chez ces jeunes, alors, il y aurait bien des choses à critiquer dans leur discours, ça, n'empêche que, pendant que leurs copains sont peut-être en train de profiter de leur vie en ayant fait des écoles de commerce, en ayant des boulots hyper rémunérés et à profiter, à prendre l'avion dans tous les sens pour aller dans les plus belles plages du monde, eux, ils font un choix qui n'est pas d'abord un choix intéressé. Et ça que je trouve intéressant, donc ce que je trouve fort dans l'idéologie, c'est qu'elle implique habituellement une forme de décentrement. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à plus large que moi. Voilà. Bon, on pourrait toujours discuter le militantisme. Ça. Ouais. En tout cas, je trouve que chez ceux que j'ai rencontrés, ça ouvre à ça. En revanche, là où effectivement il y a une vraie discussion, c'est quand cette idéologie elle n'est plus confrontée au réel et qu'elle devient une espèce de finalité, de bulle dans soi, on pourrait dire. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui effectivement devient assez dangereux. Alors, pourquoi pas l'image d'un mur, voilà. Alors c'est là où je trouve que c'est intéressant quand quelqu'un est dans une idéologie d'essayer de comprendre, de travailler et voilà. Et en fait, moi en tout cas, j'en arrive à la conclusion que dans ces quelqu'un qui vit pour une idéologie vit pour un combat. Ça c'est sûr, il y a un combat, il y a une lutte. Or cette lutte, je n'ai rencontré autour de moi que deux moteurs. Le moteur de la haine et le moteur de l'amour. Le moteur de la haine, c'est la colère. C'est je vais aller manifester parce que je suis en colère. Je vais écrire sur un blog, je vais tweeter quelque chose parce que je suis en colère. Je ne suis pas sûr que la colère soit très constructive. Je ne suis pas sûr que ce mode-là permette de construire quelque chose de meilleur. Parce que c'est toujours facile de critiquer, de vouloir détruire, mais si c'est pas pour construire quelque chose derrière, je trouve que c'est pas très utile. Et c'est là où je trouve qu'en fait, le deuxième moteur, c'est l'amour. Et donc l'idéologie, en fait, elle me confronte toujours si je vais jusqu'au bout, mais pourquoi est-ce que tel combat est important pour moi? En fait, bah, si j'admets que la colère est une raison insuffisante, en fait, il reste l'amour. Mais alors là, l'amour, ça va faire un peu exploser le cadre, en fait. Parce que l'amour, ça, l'amour, c'est autre chose. Ne serait-ce que parce que l'amour, c'est concret. Alors si vous, oui, quelqu'un qui me dirait, moi, ma vie, ma cause, c'est la biodiversité. Ben, moi, ma question, c'est, ah oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est important la biodiversité? Pourquoi ça serait, oui. En fait, et du coup, là, on est obligé d'aller au-delà de ça. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique? Enfin, peut paraître évident, peut-être que la question, elle paraît bête, mais au fond, pourquoi? Alors, d'une part, la réponse, souvent, elle cache un transcendant. C'est-à-dire que, on va estimer que la vie animale, elle a plus de valeur que la vie humaine, par exemple, ça c'est Extinction Rébellion. Bon, on va dire des choses. Mais en fait, qui a dit ça? D'où ça vient? Alors là, moi, j'appelle ça le transcendant caché, celui qui, dans une idéologie, ne se rend pas compte qu'il estime que quelque chose a de la valeur, que ce n'est pas lui qui a donné de la valeur, et on ne sait pas d'où cette valeur, elle vient. Voilà. Et puis, pour ce qui est de l'amour, c'est qu'en fait, si je ne fais pas les choses par amour, bah, souvent, je pense que c'est un peu vain, mais si je veux les faire par amour, alors l'amour, c'est concret. Alors, je ne peux plus rentrer dans des espèces de considérations purement abstraites. Vous voyez. Par exemple, dans le bouquin, je parle de la distinction entre se battre pour le droit de la presse et se battre pour le droit que tel journaliste ait le droit d'écrire un article. Oui, c'est pas la même chose. Je me bats pour le droit de la presse, c'est abstrait. Je pense à personne, j'ai pas de journaliste devant moi, j'ai pas de sujet. Mais si je sais que tel journaliste est en train d'écrire un sujet, que c'est très important pour la démocratie dans son pays, alors oui, là, ça a du sens, vous voyez. Et donc, l'amour me ramène à du concret, et le concret, en fait, ben, dans l'amour, c'est de savoir donner de l'amour à quelqu'un, et aussi de savoir le recevoir. Et donc, quand je pense à cet étudiant qui voulait donner sa vie pour la défense des grenouilles, par exemple, et moi je me disais, mais super, mais en fait, l'amour, tu vas le recevoir de qui dans ta vie, en fait? Je pense pas que ce sont les batraciens qui vont remplir ton cœur, tu vois? Donc, que pour une part, tu as envie de défendre les grenouilles, tout ça, je trouve ça très intéressant, beau, et puis, probablement, tu n'en retires rien personnellement, donc je trouve ça intéressant. Mais à mon avis, tu n'es pas encore allé au bout de ton raisonnement. Et ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est plutôt cet aspect-là, c'est de montrer qu'on peut vivre sans raison, on peut vivre par passion, mais qu'en fait, la passion elle-même, elle va être un peu insuffisante à un moment, notamment parce que j'ai envie que ma vie, elle soit utile. Du coup, ça peut me faire basculer dans une cause. J'ai envie, donc je vais vivre par une cause. Mais en fait, si je creuse au fond de la cause, il y a la question de l'amour qui forcément va se poser. Et là, ça m'oblige à me poser un certain nombre de questions.
pense qu'on y arrive avec la prochaine question. Vous abordez la vie intérieure en référence au camp de concentration, comme celui d'Auschwitz. Pourquoi ?
C'est l'expérience de Viktor Frankl qui m'y a amené. Quand je me suis intéressé à la question du sens de la vie, parce que j'avais envie de traiter cette question-là devant les lycéens qui ne cessaient de m'interroger dessus de manière diverse, je me suis dit, je savais qu'il existait un psychologue qui avait écrit un livre qui s'appelle « Découvrir ou trouver le sens de sa vie ». Et donc je me suis dit, moi, je peux pas passer à côté. Donc j'ai dévoré ce bouquin avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est cet homme qui est à Auschwitz et qui en fait de faire l'expérience que tous ne survivent pas de la même manière dans le camp et que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas les plus gros, les plus costauds qui vont survivre. Ce sont ceux qui pensent à au-delà du camp et à après le camp. Dit autrement, ce sont ceux qui, de manière, alors lui, c'est purement subjectif, donc ceux qui, de manière subjective, vont trouver un sens à ce qu'ils font. Et il le dit, c'est incroyable, hein, c'est une histoire, c'est une anecdote. Il dit, c'est un matin, on marchait, c'était brumeux, et on avait tous froid, on était mal, on allait passer une journée, on avait à peine mangé, enfin, vous imaginez, vous voyez le tableau, quoi. Et puis, tout d'un coup, il y a son voisin avec qui il marchait, qui lui dit juste, j'espère que nos femmes ne nous voient pas. Et lui, s'est fait une espèce de choc. En fait, il savait même pas si sa femme était encore en vie à ce moment-là. Mais il pense à cet amour qu'il a pour sa femme. Et en fait, il va se mettre à faire les choses par amour pour elle. Ce qui à la fois peut sembler complètement dérisoire, parce qu'il sait même pas s'il va la revoir, il sait même pas si elle est encore vivante. Enfin, mais en fait, cette relation-là va donner un sens à ce qu'il est en train de faire. Et en fait, ça va l'aider à survivre. Et ce que je trouve formidable dans cet exemple-là, c'est ce que j'appellerais le basculement vers la vie intérieure. C'est-à-dire que Frankl, par cette expérience-là, il va découvrir toute une partie, je pense pas tout, mais il va commencer à découvrir son intériorité. Quand lui, il y a du psychique, en lui, il y a des attentes, en lui, il y a les choses entrent en résonance, il y a des échos intérieurs. Que ce soit, et ça me fait penser, enfin, vous voyez peut-être dans Primo Levi, si c'est un homme, donc encore quelqu'un qui raconte son expérience de camp. Et en fait, Primo Levi raconte, donc il est avec tous des Italiens et il se récite des vers de Dante de la Divine Comédie pendant qu'ils font des travaux dans le camp et en fait ça les aide à survivre. Et donc chez ces deux hommes, je trouve au milieu de l'épreuve l'expérience qu'il y a en moi une vie intérieure artistique, psychologique. D'autres feront est-il soum l'expérience d'une vie proprement spirituelle. Enfin voilà, on pourrait déployer, mais ce que je trouve intéressant, c'est cette découverte de l'intériorité qui, à mon avis, est peut-être le premier défi pour la jeunesse. C'est-à-dire ne pas vivre à l'extérieur de soi, ne pas vivre que pour l'apparence ou le regard, pour la réussite, pour ce qui se voit, mais vivre aussi parce que en moi, en fait, j'ai une intériorité. Cette intériorité, elle a des attentes aussi, elle a des besoins, elle a des désirs. Et en fait, quand je découvre qu'il y a une vie intérieure, il y a comme une nouvelle dimension qui s'ouvre à moi.
Père Nathanaël Garrick, à la page 77, vous écrivez « Assumer la question de l'amour, c'est aussi assumer la question du temps ».
Oui, parce que l'amour, ça prend du temps. L'amour dans la relation. Alors ici, je pense à l'amour au sens large, la relation amoureuse, mais l'amitié aussi. Forcément, ça, ce sont des questions qui marchent ensemble. Je trouve que la manière la plus simple de donner ça à voir, c'est juste d'analyser le langage. Prenons le mot ami, de la manière dont nous l'utilisons. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques minutes. C'est un nouveau visage, vous m'avez dit quand nous nous sommes vus. Bon, notre entretien se passe très bien. Peut-être que si je restais encore une heure après cet entretien. Nous pourrions aborder tout un tas de choses, de passions communes. Je vous parlerai de Pascal encore pendant longtemps. Vous trouverez ça passionnant, tout ça. Nous échangerions. Mais si à la fin nous croisions quelqu'un, vous ne diriez pas, je vous présente le père Nathanaël, c'est un ami. Vous diriez peut-être, il est très intéressant. On a beaucoup d'intérêts ensemble, etc. Pourquoi ? Parce que fatalement, un ami, c'est quelqu'un que l'on connaît depuis un certain temps. Je ne vais pas vous dire quand, mais depuis un certain temps. Parce que ça implique une durée. Et donc le fait que le mot ami soit réservé à ce qu'on pourrait appeler une relation longue, il me semble que c'est l'indice que certaines relations, et l'amour est éminemment de celles-là, il y a des relations qui prennent du temps. Et donc l'amour, eh bien, quand on aime quelqu'un, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on ne se marie pas du jour au lendemain. Mais c'est pour ça aussi que quand on célèbre des mariages, eh bien, on dit aux nouveaux époux, j'espère que vous allez continuer à grandir en amour. Est-ce que la semaine, je célébrais un mariage il y a pas longtemps, je leur disais, est-ce que vous espérez qu'aujourd'hui c'est le plus beau jour de votre vie? Ils m'ont répondu oui. Je leur ai dit, mais malheureux. Si aujourd'hui c'est le plus beau jour de votre vie, il vous reste longtemps à vivre en ayant le meilleur derrière vous. Non, le plus beau jour de votre vie, ça va être demain, parce que demain vous aimerez plus qu'aujourd'hui. Et après-demain, vous aimerez plus que demain. Enfin, c'est ça que je vous souhaite. Et donc, je crois que, vous voyez, ben, ces relations, elles grandissent dans le temps.
Est-ce qu'ils ont souri?
Oui, oui.
Pourrait-on parler d'un amour finalement infini?
Je pense que si on admet ce qu'est l'amour, la forme finie de l'amour est toujours une forme dégradée. Et donc, pour répondre à la question, je dirais qu'en fait, la forme normale de l'amour, ça devrait être l'amour infini. Sauf que nous, on ne sait pas vraiment le vivre. Mais si aimer quelqu'un, comme on l'entend un petit peu, ça veut dire se sacrifier pour lui, tout donner pour lui, en fait, tout amour devrait être infini. Et c'est ça, tout, je pense, le drame de notre vie. C'est que nous n'arrivons pas à donner et habituellement à recevoir ce à quoi nous aspirons. Nous voulons vivre. Qui a envie d'être aimé de manière imparfaite? Qui a envie de trahir ses amis? Et pourtant, nos vies sont faites de ça. Nos vies sont faites de blessures, de maladresses, de trahison, pour prendre un mot un peu grandiloquent, entre amis, entre frères, à l'intérieur d'une famille, enfin, on le voit bien. Et donc, je pense que nous faisons l'expérience que ce à quoi nous aspirons, et que nous appelons amour, ça n'est pas ce à quoi nous vivons. Donc oui, je pense que cet amour infini, il est en attente dans notre cœur. Et pour les chrétiens, cet amour infini, il s'appelle Dieu. Il n'y a pas tellement d'autres noms dans l'histoire de l'humanité qui étaient dédonnés à l'amour infini hormis Dieu. Et c'est intéressant, c'est bouleversant de voir comment est-ce que des gens, j'ai envie de dire peut-être que la plus belle preuve de l'existence de Dieu, c'est que des gens qui n'ont jamais communiqué entre eux dans l'histoire de l'humanité, dans des cultures différentes, vont dire « En fait, je crois qu'il y a un Dieu qui m'aime ». C'est l'expérience de la rencontre de Dieu est assimilée à une expérience d'amour. Les saints ne sont jamais bouleversés de découvrir que Dieu existe. Peut-être moins, ils sont moins bouleversés de le découvrir qu'un scientifique quand il a découvert une nouvelle planète. Ça, c'est bouleversant de découvrir qu'une nouvelle planète existe. De découvrir que Dieu existe, c'est pas bouleversant. Ce qui est bouleversant, c'est croire qu'il m'aime. Parce que là, ça reconfigure tout le logiciel de ma vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Et donc, je pense que, effectivement, le sens de l'amour, ça ne peut être qu'un amour infini, parce que c'est bien ce à quoi nous aspirons, et que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas été donné d'autre nom à l'amour infini sinon celui de Dieu. Et je terminerai là-dessus cette réponse. La manière dont saint Jean parle de Dieu dans son évangile, mais plus encore dans la première lettre de saint Jean, c'est précisément à partir de cette expérience-là, Dieu est amour. Dieu est amour, et donc c'est le nom, c'est l'expérience qui va le mieux définir qui est Dieu, non pas ce qu'il fait, non pas ce qu'il est capable de réaliser, mais ce qu'il est. Dieu est amour.
Perdre ou gagner, matériellement ou par estime, dans le sens de sa vie, Lorsque nous accueillons l'Évangile, sommes-nous libérés de ce qu'on a gagné en perdant?
Moi, j'aime bien cette image-là de gagner et perdre. Peut-être parce que j'aime bien les jeux, mais je pense que ça parle aussi. Pascal en parle dans son pari, tu gagnes ou tu perds. Il y a un groupe de musique que j'aime beaucoup, que je cite à l'occasion dans le livre, qui est un peu, qui s'appelle Faux. Alors, il exprime un peu une sphère de violence, de révolte. Donc, faut l'écouter en faisant attention, ce groupe, parfois, parce que dans leur révolte, ils disent des choses un peu graves, et puis un peu... Enfin, bref, voilà, je ne vais pas trop m'étendre non plus sur ce groupe, mais je trouve qu'il dit bien un peu ce que c'est que l'expérience contemporaine, et notamment dans un de ces morceaux, il dit « J'ai envie de tout perdre et de tout rejouer ». Et je trouve que la vie, elle ressemble un peu à ça, en fait. C'est-à-dire que, ok, j'ai 20 ans, j'ai gagné des choses, j'ai compris, j'ai réussi, etc. Et si je me trompais? Et si, en fait, il y avait un espèce de plafond de verre dans ma vie qui fait que si je vis pour prendre des autres, pour gagner, pour réussir des choses, en fait, il y aura un espèce de plafond de verre qui fait que je ne pourrai jamais rentrer pleinement dans la vie. Et quand vous regardez des saints, quand vous regardez n'importe lequel, quand vous prenez un saint François d'Assise qui, du jour au lendemain, va tout perdre, il va renoncer à l'héritage paternel, il va déambuler dans les rues d'Assise avec un habit ridicule en passant devant les tavernes où ses amis se moquent de lui, quand vous prenez un Damien Molokai qui va aller habiter sur une île avec les lépreux, enfin, quand vous prenez n'importe quelle vie de saint, vous vous rendez compte qu'à un moment, il y a une espèce de pari. C'est-à-dire que j'ai tout perdu, je perds tout. Mais je décide que je perds tout parce que je donne tout au Christ. Et je crois que il va me redonner plus encore que ce que j'ai perdu. Et donc je trouve que notre vie, elle est souvent un peu comme ça. C'est-à-dire ne rien perdre, s'asseoir sur son trésor pour essayer un petit peu de le maintenir, ou alors être un petit peu joueur et dire « Ok, je suis prêt à renoncer à tout un tas de choses qui aujourd'hui me paraissent importantes, mais parce que je crois qu'en fait, il y a plus à recevoir. » Et en fait, Jésus, il dit exactement ça dans l'Évangile, quand il dit, ben voilà, il y a ceux qui essayent d'accumuler en vue de la vie éternelle, mais ils risquent de tout perdre. Et puis, il y a ceux qui ont tout perdu et qui vont tout recevoir à nouveau. Et saint Paul, encore, qui probablement peut-être ne connaissait pas cette phrase de l'Évangile, quand il dit, j'ai considéré tout comme des balayures, comme rien, tous les privilèges que j'avais en tant que juif au milieu des autres juifs, j'ai considéré que tout cela ne valait rien afin de tout recevoir du Christ. Et voilà, moi j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, soyons joueurs.
Vous me précédez. Dans cette optique de l'Évangile accueilli, le bonheur serait-il quelqu'un?
Le bonheur ne peut être que quelqu'un. Tu réfléchis, au fond, alors j'aime bien moi demander aux jeunes l'image qu'ils se font du bonheur. Et c'est intéressant parce que précisément, dans 99% des cas, le bonheur est vécu et pensé de manière comme une possession, posséder quelque chose. Le jour où j'aurai telle chose, alors je serai heureux. Que ce soit un bien matériel ou que ce soit une personne. Le jour où j'aurai un mari, je serai heureux. Tu vas avoir un mari, bon, c'est bien. Tu vas avoir un chien, une voiture, une maison et un mari. Bon, ok. Et en fait, je pense que là, il y a quelque chose de profondément trompeur. C'est que quand on veut encore plus. Et puis la relation humaine, elle, normalement, enfin, on peut espérer qu'elle ne se construise pas dans l'ordre de l'avoir. Que la relation est plus profonde que ça. Et donc, en fait, il y a cette vision-là du bonheur qui, à mon avis, en fait, est une espèce de vaste illusion qui va nous faire courir toute notre vie derrière quelque chose que l'on n'aura jamais. Ou alors, je comprends que je suis fait pour la relation et donc que le bonheur n'est pas dans l'ordre de l'avoir. Le bonheur est dans l'ordre de la personne, de la relation personnelle. Et alors, eh bien, quel est celui qui peut profondément me rendre heureux? C'est celui qui sait ce à quoi j'aspire mieux que moi et celui qui peut me le donner. Et il se trouve que c'est la même personne qui a ces deux attributs-là, si je puis dire, de savoir ce que je désire mieux que moi et qui, en plus, est capable de me le donner. Et c'est là où je trouve que, et là encore, il y a un pari à faire. Même pour les chrétiens, c'est dur de croire que Dieu va me rendre heureux. Regardez, quand c'est une question de vocation, combien fuit la question de la vocation, combien de jeunes, parce que est gravé quelque part dans leur cerveau que si Dieu leur demande un truc, il va les exploiter. Mais qu'en fait, il vaudrait mieux pour eux ne pas entendre l'appel de Dieu. Comme si Dieu pouvoir me piéger. C'est incroyable comme idée. Alors qu'en fait, Dieu veut mon bonheur plus que moi encore. Parfois, moi, je veux pas mon bonheur, mais Dieu, il peut pas ne pas vouloir mon bonheur. En tout cas, moi, comme prêtre, je peux témoigner de cette joie qui m'habite, non seulement depuis le jour où j'ai rencontré Dieu, mais aussi depuis le jour où j'ai reçu ce sacrement de l'ordre et qui fait de moi un serviteur de celui que j'aime et qui m'aime.
Père Nathanaël Garrick, vous appréciez le cinéma par les films évoqués dans votre livre, c'est évident. L'Eucharistie, grand mystère de la foi, vous semble-t-elle l'atterrissage de l'amour en vue du bonheur?
Alors je dirais que sur l'Eucharistie, en fait, c'est intéressant de réfléchir autour de se dire c'est quoi les lieux dans lesquels je peux expérimenter de l'amour. J'allais dire de manière automatique, de manière certaine. Quelqu'un qui voudrait dire « je veux voir un lieu d'amour ». Vous avez des vidéos sur Internet qui tournent, c'est les random acts of kindness, comment on dit, enfin les actes de bonté aléatoire. Bon, si tu veux être sûr de filmer un acte d'amour, un acte de bonté, filme la messe. Qu'est-ce que tu verras à la messe? Tu verras quelqu'un qui dit ceci est mon corps et qui parle en son nom, mais qui parle surtout au nom d'un autre qui a déjà donné son corps. Ceci est mon sang, au nom de Jésus qui a déjà donné son sang. Donc effectivement, quand on réfléchit à ce qu'est l'amour, eh bien, on se rend compte qu'en fait, sa réalisation pleine et absolue, c'est ce qui est vécu à chaque Eucharistie par le Christ qui prête sa parole à un prêtre pour qu'il puisse dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qu'ainsi se réalise cet acte d'amour de celui qui va se faire nourriture et breuvage pour les autres. J'aime beaucoup ce que disait le pape Benoît XVI dans son Sacramentum Caritatis, le sacrement de la charité, l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour.
Et on est dans l'incarnation.
Ah bah complètement, oui. C'est concret. L'amour, c'est jamais une idée. L'amour, c'est toujours concret.
Et le mot atterrissage de l'amour?
Atterrissage de l'amour, oui, bah dans le sens que on a besoin d'avoir une piste d'atterrissage, c'est-à-dire du lieu où ça va s'incarner. On pourrait toujours avoir des idées sur l'amour, mais l'amour, justement, c'est pas une idée. L'amour est plus fort que toutes les idées parce que l'amour est quelque part, sinon il n'est nulle part. Et donc il y a bien un lieu d'atterrissage pour l'amour.
Ma dernière question, et vous serez libéré. Quel est pour vous le sens de la vie de Jésus?
Alors, j'ai envie de dire qu'il est double, mais que ça ne fait qu'un. Quand on lit l'Évangile, on voit qu'il y a deux registres qui animent profondément Jésus. Le premier, c'est d'être en communion avec son Père et de lui obéir. Ça, c'est cette dimension assez marquée. Dans la vie de Jésus, il veut obéir à son Père, il veut faire sa volonté. Et donc toute sa vie va être pour lui la méditation de ce qu'est la volonté du Père pour lui. Et en même temps, eh bien, il guérit, il soigne, il aime, il fait des miracles. Et donc en même temps, sa vie, elle est tout le temps marquée de son attention, de sa bonté envers les autres. Et en fait, il va être une espèce de convergence extrêmement forte dans sa vie, de ces deux lignes-là, la ligne de l'amour, de la volonté de faire la volonté de son Père, et sa volonté, en fait, d'aimer les hommes, c'est-à-dire de les sauver. Et en fait, sur la croix, les deux s'accomplissent simultanément, sont complètement conjointes, en faisant la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et donc, je pense que c'est ça le sens de la vie de Jésus.
Père Nathanaël Garrick, Vivre pourquoi pour qui aux éditions Salvator. Merci.
Merci à vous.
Le père Nathanaël Garrick est l'auteur du livre intitulé Vivre pourquoi? Vivre pour qui, paru aux éditions Salvator. C'était Un temps pour parler avec l'abbé Denis Veilleux, à la recherche d'Annie Benz.